y a plusieurs pensées qui permettent de s'affirmer que si cette lettre représente l'histoire générale de l'Église, on en rappelait, on en a déjà signalé une, sauf erreur, c'est qu'après le chapitre 3, il n'est plus parlé de l'Église. C'est un autre ordre de sujet qui est traité. Puis, une autre raison, c'est que certaines de ces lettres parlent de la fin, vont jusqu'à la fin, parlent de la venue du Seigneur. On pourrait en donner d'autres. Mais il est bon aussi, n'est-ce pas, quand nous étudions l'Écriture, que nous suivons les enseignements qui nous ont été donnés, que nous le fassions en cherchant à voir les raisons spirituelles qui ont conduit les docteurs que nous avons eus à déclarer ce qu'ils ont déclaré sur ce sujet-là, comme sur d'autres. Leur pensée spirituelle était nourrie de l'Écriture. Et c'est cela que nous pouvons chercher à recevoir d'eux. C'est un sujet tout à fait exceptionnel que celui-là, qui nous est assez familier, qui ne manque pas de difficultés, c'est clair, qui est beaucoup plus profond que nous le pensons, dans son ensemble et dans le détail, et qui donne là un déploiement de révélations qui porte le sceau de l'action de Dieu d'une façon remarquable. C'est cette Église, d'abord nous voyons, on redire aussi que le Seigneur s'occupe ici de l'Assemblée, il s'en occupe en juge. Ne jamais perdre cela de vue. Si le Seigneur nourrit son Église et ne cesse de le faire, il est vu ici comme juge, et pas du tout comme dans les autres passages que nous avons. D'ailleurs, l'apôtre Jean n'est pas celui qui traite de l'Église. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, trouvons-nous à la fin de Jean 21, et c'est exactement l'Apocalypse que nous avons. L'apôtre Jean, par ses écrits, est resté jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Mais nous ne pouvons pas nous étendre sur des généralités qui nous mèneraient très loin. Toutefois, puisque le sujet a été ainsi ouvert, nous pouvons nous y engager, dans une mesure. Le Seigneur est donc un juge. Il l'est toujours dans chaque assemblée. Le jugement de Dieu commence par sa propre maison. Exactement ici aussi. Le jugement du monde vient après. Le jugement de l'assemblée responsable est donné là. Ne nous abritons pas derrière nos privilèges pour croire que la grâce qui nous est faite ne nous exempte des jugements que le Seigneur porte sur nous. Ce n'est pas vrai, au contraire. Il est là un juge. C'est pourquoi les caractères sur lesquels on l'a vu au chapitre 1er ne sont pas ceux de l'école, ne sont pas ceux de celui qui est l'époux de l'épouse, n'est-ce pas, le chef de l'Église. Tête du corps. Les anges, on nous l'a dit, je désirais insister, dire un mot encore là-dessus, les anges sont représentent les éléments responsables. Et au fond, toute l'Assemblée est responsable. Nous aurons l'occasion de voir cela en détail. Les éléments responsables ne sont pas nécessairement ceux qui enseignent. Pas nécessairement et pas exclusivement ceux-là. Ce sont tous ceux à qui le Seigneur a pu donner un discernement de sa pensée. Et le discernement de cette pensée n'est pas nécessairement lié à la possession d'un don. Pas nécessairement. La spiritualité dans un chrétien est liée beaucoup plus à son état d'âme, à sa séparation du monde. La spiritualité est le discernement spirituel, c'est-à-dire le jugement des états, des situations, des choses. L'ange, il y a donc une partie qui est l'ange, et qui peut être toute l'assemblée, ou une partie de l'assemblée, peut être un seul frère, ou une sœur. Mais nous pourrons remarquer que lorsque le Seigneur frappe, juge, n'est-ce pas, c'est l'assemblée qui est atteinte. On est parti coupable, nous verrons cela dans le détail. Mais l'ange représente plutôt l'assemblée dans son ensemble, vu dans sa responsabilité, comme le Seigneur la voit en tant que responsable. Bien qu'il est sûr qu'il y a des éléments dans un rassemblement local qui sont plus responsables que d'autres, et qui, s'ils ne parlent pas de telle ou telle manière dans tel ou tel cas, s'ils n'agissent pas dans la mesure où un individu peut agir, de telle ou telle manière dans tel ou tel cas, ils ne répondent pas à la pensée, à l'intelligence que le Seigneur leur a donnée. Ils sont infidèles à ce que le Seigneur leur a confié. C'est très important cela. D'autre part, cette notion, cette idée d'ange, qui est le représentant mystique de quelqu'un, on trouve l'ange de l'Éternel, c'est le représentant de l'Éternel, le représentant mystique, c'est-à-dire caché, mystérieux si l'on veut. L'ange des petits-enfants, l'ange de Pierre, l'ange est le représentant mystique de quelqu'un. Alors l'ange, c'est celui, quand le Seigneur regarde à une assemblée locale, il regarde au point de vue de la responsabilité, puis quand il juge ce qui s'y passe, il porte ses regards sur la partie à laquelle il a donné le plus d'intelligence de sa pensée. Mais même si cette partie-là est infidèle, les conséquences sont supportées par toute la femme. Nous trouvons cela d'abord dans Éphèse, n'est-ce pas ? À l'ange, je crée talent de ton Dieu, ben c'est toute l'assemblée qui est châtiée. L'assemblée disparaît. Ce n'est pas que la partie ange qui est atteinte, c'est l'assemblée tout entière. On le trouve aussi dans d'autres endroits. L'ange et l'assemblée sont distingués dans les quatre premières et pas dans les trois dernières. Pour remarquer cela avec une lecture attentive, le texte est beaucoup plus exact, beaucoup plus précis, beaucoup plus exact, nous le pensons, tout ce texte-là, ces deux chapitres. Nous remarquons que dans les trois dernières, à partir de Sardes, Philae et Philaodicée, il n'y a pas de distinction entre l'ange et l'assemblée. Puisque nous sommes dans les généralités, nous pouvons essayer de regarder un peu pourquoi tout cela. Mais même si l'ange est responsable, spécialement, ce n'est pas lui seul qui est atteint, c'est l'assemblée elle-même. Ou les parties coupables aussi, comme nous le trouvons dans nous le verrons. Dieu voulant. Ces sept lettres peuvent être partagées de deux façons. 7 est un nombre complet, comme on trouve dans l'Écriture, qui exprime une pensée complète, spirituelle, ou bien, soit dans le bien, soit dans le mal. C'est aussi une raison pourquoi les 7 lettres représentent l'histoire générale de l'Église, parce que, comme il y avait des centaines d'assemblées à ce moment-là, il était impossible que le choix de 7 assemblées représentât la diversité des états, des centaines d'assemblées qui existaient alors. Il lui fallut que le Seigneur, au lieu d'écrire, faire écrire 7 lettres, en écrivit 700, peut-être 7000. Les assemblées étaient des assemblées variant de l'une à l'autre. Les seigneurs disaient ce qu'ils pensent des assemblées qui existent actuellement dans le monde, ce qu'ils diraient, il n'y aurait peut-être pas deux appréciations identiques qu'il ferait lui-même à l'égard des assemblées dans le monde entier. Chaque assemblée recevrait de sa part un jugement qui la caractériserait. Le Seigneur sait faire les nuances, n'est-ce pas ? Et il les sait faire et il sait les exprimer. Par conséquent, si on limitait ces lettres aux 7 assemblées qui vivaient alors, et on n'aurait pas une représentation de l'Église générale à ce moment-là. On a une représentation dans le temps. Cette assemblée nous donne le développement, l'histoire de l'assemblée responsable comme le Seigneur nous la donne ici. C'est une prophétie en grande partie. l'histoire de l'Assemblée dans le temps du commencement jusqu'à la fin, l'Assemblée responsable. Elles peuvent se partager en deux manières, en quatre et en trois. Les quatre premières, n'est-ce pas, nous conduisent jusqu'à la fin, puisque Thyatire va jusqu'à la fin, jusqu'à l'anneau du Seigneur. Elles nous conduisent jusqu'à la fin, en partant d'Éphèse, dont l'état est tel que le Seigneur dit, je traite, menace d'ôter la langue de son lieu, ce qui est encore une preuve pour voir que nous avons là le développement historique de l'Assemblée. L'annonce dès la première que la langue serait ôtée, elle le sera, n'est-ce pas? Depuis ce moment-là jusqu'à Thyatire, nous avons l'histoire de l'Église responsable. L'appel à la repentance est fait, est adressé et n'a pas servi. N'a pas servi. Nous voyons bien qu'il n'y a pas eu de réponse à cet appel à la repentance. Et après les trois dernières, nous voyons que les trois dernières, un autre trait aussi, dans les quatre premières, nous avons, le Seigneur se présente en général selon des caractères donnés au chapitre premier, qui lui sont donnés. Enfin, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et autres caractères. Dans les trois dernières, non. Sauf pour Sardes, un caractère général, il tient les lampes, c'est tout. Mais dans les autres, non. Même Sardes, c'est à peine esquissé. Même Philadelphie, point du tout. Et Laodicée non plus. Ce sont des caractères nouveaux. Parce que le Seigneur ne reconnaît plus l'Église générale, il ne la reconnaît plus, l'Église générale, et la repentance n'a pas été acceptée. Et alors le Seigneur se présente dans les trois dernières sous des traits que la foi seule peut discerner. La piété seule peut discerner ce qui est dit, que ce qu'elle leur dit, les traits sous lesquels il se présente à même à Sartre, déjà, à Philadelphie et à l'Odyssée. Le caractère ecclésiastique dans Sartre, Philadelphie et l'Odyssée a disparu. Et pourquoi ce caractère a-t-il disparu? Parce que Thyatire va jusqu'à la fin et embrasse la fin sous son manteau. Thyatire, c'est l'Église, c'est le caractère ecclésiastique de l'Église jusqu'à la fin, disons-le, de l'Église catholique, qui embrasse sous son manteau tout ce qui suit. C'est-à-dire que ça, Philadelphie et l'Odyssée ne sont qu'un état de choses, incomplet, n'est-ce pas, limité, et le Seigneur veut-il, un état de choses limité, sous l'ombre, si l'on peut dire, ou sous le manteau de l'Église, de l'Église générale, professante. Voilà pourquoi ces trois assemblées, le Seigneur ne se présente pas comme dans les premières. Elles n'ont pas de caractère ecclésiastique officiel. Ça, Philadelphie, l'Odyssée, le protestantisme, et ce qui en est issu, n'est-ce pas? Le protestantisme, pour ainsi dire, a éclos. Dans le sein même, le catholicisme ne l'a pas remplacé. Le catholicisme continuera juste à la fin. Le protestantisme est né dans cet état de choses. Et ce qui a suivi le protestantisme de Philadelphie est né ensuite, a été suscité par le Seigneur dans cet état de choses, et l'Odyssée, qui existe aussi de nos jours. De sorte que de nos jours, nous avons Thyatire, Sardes, l'Odyssée, Philadelphie, et cela nous conduit à une deuxième division des sept assemblées. J'ai dit les quatre premières, quatre et trois, n'est-ce pas? Les trois dernières n'étant pas des assemblées, n'ayant pas le caractère ecclésiastique officiel, mais n'étant que des témoignages que le Seigneur a suscité en supportant Thyatire jusqu'à la fin, des témoignages qui ont une très grande valeur à ses yeux, mais qui ne sont pas revêtus du caractère ecclésiastique officiel que nous trouvons dans les autres églises. Et alors, nous avons donc les quatre premières qui nous donnent toute l'histoire de l'Église responsable, depuis la menace que la lampe serait ôtée sur son Dieu, jusqu'à la fin, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de Thyatire, et d'autre part, dans ce, à l'ombre de Thyatire, pour ainsi dire, les trois dernières sont des fruits, plutôt, sont les suites dans l'infidélité du fruit de l'activité de l'Esprit de Dieu pendant que Thyatire continue jusqu'à la fin. Je ne peux pas dire, on ne peut pas dire que Sardes en tout cas, et l'Odyssée soient les fruits de l'Esprit de Dieu, aucunement. Le Seigneur n'en juge pas ce qu'il a fait, il juge ce que l'homme a fait de ce que lui a fait. Mais nous y reviendrons dans le détail. Alors, 4 et 3. Les trois dernières étant, pour ainsi dire, cachées sous l'ombre de Thyatire. Nous pouvons remarquer aussi que, en rapport avec ce même courant d'idées auquel chacun peut prêter attention, parce que c'est l'intelligence même de ces deux admirables chapitres qui sont assez difficiles. C'est l'intelligence de ces chapitres qui en dépend, bien que le bénéfice individuel dans le détail, chacun peut recevoir des exhortations qui sont données là, des appels et des jugements que nous trouvons là dépassent évidemment tout ce que nous pouvons penser. Outre cela, il y a quand même le bénéfice que l'on peut retirer de l'intelligence, de la pensée de l'esprit, la pensée générale et profonde de l'esprit dans ces passages. Et il y a lié à cela une autre remarque qui a été souvent faite et que nous ne pourrons pas ne pas dire si voulant, c'est que les deux formules qui terminent chacune des lettres, celui qui vaincra, première formule ou deuxième, et que celui qui a des oreilles écoute, ces deux formules ne sont pas dites dans le même ordre pour les sept. L'ordre change à un moment donné. N'est-ce pas ? L'ordre change. Et l'ordre change à partir de Thyatire. C'est à partir de Thyatire que nous avons ici celui qui vaincra d'abord et puis que celui qui écoute. Tandis que dans les trois premières, nous avons que celui qui écoute d'abord et celui qui vaincra. Cela est lié toujours à ce courant de pensée lié au fait suivant. Dans les premières assemblées, le Seigneur les considère comme tels et fait appel à la repentance. Et pourquoi, voilà, que celui qui a des oreilles, écoute, il s'adresse. Ainsi, l'exhortation à écouter est adressée à l'assemblée tout entière. Et puis, l'appel à vaincre. Et pour le redire encore, vaincre, comme on nous l'a dit, je désirais même préciser ce qui a été dit, je compte le préciser, parce que c'est de toute importance, vaincre, dans tous ces passages, cela veut dire triompher de Satan, du monde, de la chair. Et notons bien que le combat, n'est-ce pas, le combat, la victoire ici, elle est dans ces assemblées, la lutte, elle est considérée comme se livrant dans ces assemblées même. Quand l'assemblée est en bon état, n'est-ce pas, ces luttes, ces combats sont vis-à-vis du monde davantage. L'assemblée en bon état peut être employée par le Seigneur pour conquérir des âmes. C'est un bon travail, c'est une lutte positive. Ici, nous avons des exercices qui sont beaucoup plus internes. Ce n'est pas un conseil. Mais nous avons, toutefois, ces passages sont encourageants parce que le Seigneur ne nous dit pas de jeter le manche après la cognée parce qu'il y a des difficultés internes. Il se présente comme celui qui vient t'aider lorsque, justement, il y a des difficultés internes. Et de nos jours, elles ne manquent nulle part. Voilà pourquoi ces passages sont d'un profit extrême de nos jours, à tous égards, pour nous rendre sérieux, pour nous avertir, pour nous reprendre, mais aussi pour nous encourager. Alors le Seigneur, à partir de Thyatire, il a refusé de se repentir, il dit à celui qui vaincra, d'abord, hein, il dégage déjà, au lieu de ça, il ne s'adresse plus à l'assemblée comme telle. Dans sa pensée, il détache du corps général, il détache ceux qu'il voit comme devant vaincre, Et l'invitation à écouter vient après. Le fait que l'ange et l'assemblée ne sont pas distingués dans les trois dernières est lié au fait que je l'ai déjà dit tout à l'heure, au fait que les trois dernières assemblées n'ont pas de caractère ecclésiastique. Non pas. Elles sont une sorte, elles étaient au départ, un résidu au sein d'un état de choses qui continuait. C'est quelques remarques générales qui sont plutôt données pour que chacun se livre à l'étude de ces choses, de ces sujets, de chapitres qui n'ont pas leur semblable. Dans ce livre, et même, on peut dire, dans tout ce qui est donné à l'Église. Ce n'est pas Paul qui parle ici, c'est Jean qui parle de la part du Seigneur. Il ne s'agit pas de l'édification positive de l'Église, n'est-ce pas? Mais c'est tout de même adressé à ceux qui font partie de l'Église. Des exhortations. Des exhortations avec des menaces de jugement, enfin, et l'histoire générale de l'Église. Des chapitres de toute valeur. De toute valeur pour nos jours, en tout temps. Et dont on peut penser que depuis qu'ils ont été donnés par l'Esprit, par l'apôtre Jean et autres, jusqu'au siècle dernier, on peut bien penser que ces passages, évidemment, il faudrait, pour l'affirmer positivement, formellement, se livrer à des recherches, et nous avons d'autres choses à faire, toutefois. Mais on peut penser que ces chapitres ont pu être en dehors des encouragements et exhortations de détails, qui, comme toute l'écriture elle-même, tous les passages de l'écriture le font, apporter des encouragements aux saints par les détails de tout ce qu'on y trouve. Mais l'intelligence générale, jusqu'au siècle dernier, on peut se demander que ces chapitres ont été, pour ainsi dire, scellés à l'intelligence des chrétiens. La réforme n'est pas arrivée là. Nous aurons l'occasion d'en parler. S'il plaît à Dieu, en tout cas, nous n'aurons peut-être pas dans ces deux jours le temps d'arriver jusqu'à Sardes. Dans ça, peut-être que nous pourrons aller un peu plus vite lorsque les détails sont plus faciles et nous arrêter davantage à ce qui est moins facile. Il est bien évident que c'est la foi seule qui peut être un crâne. Et que ici nous avons ces exhortations en rapport avec un état de choses qui devait être mélangé très tôt. On ne conçoit pas que ces appels eussent pu être adressés à l'Église telle qu'elle est vue dans les premiers chapitres des Actes. Dans ces moments-là où tout était, on peut dire, parfait. Mais le mélange, c'est-à-dire de ce qui est de la chair et de l'esprit, et puis du monde, s'est produit bientôt. Ça n'a pas tardé, nous le voyons aussi dans le même livre des Actes. Et comme ce mélange devait caractériser l'histoire de l'Église dans sa plus grande partie, le Seigneur encourage la foi en donnant ces chapitres. Il nous encourage et nous montre en même temps le chemin, et nous montre que nous ne devons pas être étonnés de cet état de mélange qui pourrait étonner et en même temps décourager. Il y a un chemin dans cet état-là, il y a une victoire possible dans cet état-là, il y a une vie chrétienne possible dans cet état-là, et nous qui aimerions bien avoir un état parfait qui nous permet de n'avoir aucun exercice et de réaliser déjà le repos du ciel sur la terre, ce n'est pas ce que nous dépeignent ces chapitres. Il nous faudrait peut-être entrer maintenant dans notre sujet et voir un peu ce qui est donné dans l'église d'Éphèse. Cette épître à Éphèse, elle est très, très solennelle pour l'individu et pour chaque assemblée locale, et de nos jours surtout. Le Seigneur parle du bien, il le fait toujours, il commence par là. C'est aussi ce que nous avons toujours à faire quand nous nous occupons d'une difficulté. C'est quelqu'un qui a une difficulté à l'égard d'un croyant ou de plusieurs. Mais la façon dont il parle déjà, travail, patience, comme cela a été souvent dit, je ne m'arrêterai pas, d'autres pourront s'y arrêter si on juge bon, déjà montre, exprime le déclin. Tes œuvres, ton travail, ta patience. Ce n'est pas sans importance. On peut faire beaucoup d'œuvres, se livrer à un travail persévérant, opiniâtre, et avec un dévouement remarquable, et puis patienter. Les déclarations sont tout de même incomplètes et sèches. Et elles renferment un reproche indirect. Et qui est d'autant plus fort qu'il est indirect. Cette façon délicate du Seigneur de et nuancée n'est pas pour cela moins puissante. Car les œuvres, normalement, doivent être des œuvres de foi, le travail d'amour et la patience d'espérance. Je désirais dire un mot sur cela, qui est plus important que cela ne paraît. Nous avons des formules qui nous sont très familières, que les enfants savent par cœur, ces versets, et nous aussi. Et souvent, elles glissent sans laisser de traces dans nos cœurs et de traces dans nos consciences. Et il en était ici beaucoup d'autres. Les œuvres, le modèle en cela, Éphèse ici, n'était plus l'Éphèse, la première épître. La première lettre adressée à Éphèse, c'est l'épître aux Éphésiens. Elle n'était pas à la hauteur ici non plus de l'épître de l'assemblée de Thessalonique. La première lettre. Œuvre de foi. Important de nos jours, c'est pourquoi je m'arrête sur cela. Œuvre de foi. Travail d'amour, patience, espérance. Voilà ce que le Seigneur aurait dit à Éphèse s'il n'avait rien eu à lui reprocher. Eût-il arrêté sa lettre ici, eût-il arrêté sa lettre au verset, à la première partie du verset 2, simplement, tes heures, ton travail, ta patience, il y avait déjà un reproche. L'oreille d'un fidèle aurait senti le reproche. Qu'est-ce que c'est que les œuvres de foi? L'important, cette notion d'œuvre, n'est-ce pas, aujourd'hui? Toujours. On a tous souvent remarqué, souvent dit, que quand la piété baisse, les œuvres augmentent. Très facile à trouver des exemples permanents et publics de cela. Quand la vie avec le Seigneur baisse, l'âme est malade. Elle est malade. La conscience n'est pas heureuse, n'est pas à l'aise. Le cœur n'est pas heureux. Il y a un état morbide auquel on cherche à faire face par de l'agitation. N'est-ce pas? Et cette agitation, comment on sent bien qu'on ne peut pas se porter sur le mal, encore on a besoin d'en être gardé. Cette agitation se porte sur des choses qui ont l'air d'être bonnes. Et ce sont les œuvres. Nous ne disons rien contre les œuvres et contre le dévouement. Au contraire, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci, c'est que le dévouement nous manque dans les assemblées aujourd'hui. Nous manque beaucoup. Nous nous enfermons dans nos propres circonstances. C'est de l'égoïsme. Mais pallier ce mal par l'entreprise d'œuvre n'est pas selon Dieu. La première chose et la chose constante à rechercher, c'est la paix et la joie, la communion avec Dieu dans nos âmes. Alors, les œuvres que nous faisons, que nous sommes appelés à faire, les œuvres peut-être très ordinaires, nos activités de chaque jour, ce ne sont pas proprement des œuvres chrétiennes, mais même l'activité de chaque jour, ou alors des œuvres comme une visite, une lecture de la parole, la prière, un service, ceux qui sont qualifiés pour un service, quel qu'il soit. Cette œuvre-là, ces œuvres-là, lorsque nous sommes en paix et en joie devant Dieu notre Père et avec le Seigneur, ces œuvres sont un fruit de la confiance que nous avons en Dieu. Œuvres de foi, c'est-à-dire œuvres qui en sont faites en comptant sur Dieu. On ne comptera pas sur sa propre connaissance, on peut avoir beaucoup de connaissances. L'apôtre en avait beaucoup de connaissances. Il ne comptait pas sur sa connaissance, ni sur sa piété. Quant aux moyens, et ni sur sa capacité humaine, il n'en avait, n'est-ce pas? Quant aux moyens matériels, il n'en avait pas. Il était pauvre. Il était pauvre. Les plus belles œuvres, les seules œuvres, n'est-ce pas, que Dieu reconnaisse, ce sont celles qui sont accomplies parce que l'on compte sur lui. Et on peut être le plus pauvre des hommes, et même le plus incapable, humainement parlant, et faire des œuvres admirables à la gloire de Dieu. C'est la foi qui produit ces œuvres. Eh bien, je désire en passant simplement présenter ceci pour nous rappeler que lorsque nous cherchons à faire quelque chose sans que nous comptions sur Dieu dans ce que nous faisons, si nous comptions sur les hommes, sur les frères, sur les moyens des frères, les moyens des frères aujourd'hui ont beaucoup plus de moyens matériels qu'ils n'en avaient il y a 100 ans. Oh, c'est bien sûr. Leurs œuvres sont-elles meilleures? Ceci est moins sûr. Ou plutôt, on pourrait peut-être dire qu'il est sûr qu'elles sont malades. Et encore une fois, je désire en aucune manière éteindre le zèle de qui que ce soit. Ce doit être un souci pour quiconque de ne pas éteindre le zèle de quelqu'un qui a le cœur engagé avec le Seigneur. Mais le zèle selon la connaissance. Eh bien, que les œuvres que nous faisons, chers frères et sœurs, quelles qu'elles soient, les sœurs aussi, que Dieu nous enseigne à ce qu'elles soient des œuvres de foi, où nous comptions sur Dieu et où par conséquent, notre souci, notre désir, c'est la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Un frère peut très bien chercher sa gloire et nous avons à prendre garde très très en cela. Et il peut chercher à se faire un nom. Et en passant, je dis aussi que je désire dire ceci, n'est-ce pas, que les frères qui nous ont enseigné il y a 100 et quelques années sont plus précieux si nous prenons la peine de considérer ce que la grâce de Dieu a fait d'eux. Ils sont plus précieux pour nous aujourd'hui parce que par l'état moral qui les a caractérisés dans leur comportement, leur parole, leur façon d'être, même que par leur connaissance, et par les développements qui, par la grâce de Dieu, les développements scripturaires qui, par la grâce de Dieu, nous ont été conservés. Il y a eu parmi eux des personnes qui ont eu à cœur, et il est difficile, en tout cas de loin, de trouver des défaillances dans leur comportement. Ils ont eu à cœur de faire un travail qui a été produit, une œuvre, produite par la confiance en Dieu. Et plus d'un d'entre eux aurait pu se prévaloir de capacités personnelles, alors que Dieu leur a fait la grâce de ne pas compter là-dessus et d'avoir ce sentiment qu'en eux-mêmes, il n'était rien, comme l'apôtre lui-même dit. Que Dieu nous donne de peser cela avec le plus grand soin de nos jours. Œuvre de foi, cela ne veut pas dire la foi qui croit Dieu, qui croit en Dieu, c'est la confiance. Comme le chapitre 11 des Hébreux, à peu près toujours dans Hébreux 11, foi, c'est confiance. Le mot foi a deux sens. La foi qui croit ce que Dieu dit, c'est un sens. Et deuxièmement, la foi qui s'appuie sur Dieu, qui compte sur Dieu. Que Dieu nous fasse cette grâce, chers amis, dans tous nos services, quelques petites fois. Et ainsi, Dieu a la place qu'il doit avoir, et le Seigneur, et l'œuvre est une œuvre de foi. À Éphèse, il y avait eu déclin de ce côté-là. Le travail d'amour. Un travail dont le qui est produit par l'amour pour Dieu et pour les saints. Et ce n'est pas un travail de mercenaire. Et ce n'est pas un travail commandé par d'autres. On n'obéit pas à d'autres. On obéit à celui qui fait faire le travail. Parce qu'on aime celui qui demande, qui nous demande de faire le travail par amour pour lui. Lui, et encore une fois, le cœur est en rapport direct pour les œuvres avec Dieu, il est en rapport direct pour le travail de détail, pour l'exécution des œuvres dans le détail, et alors la peine dans ce cas-là, la peine, le labeur et même les souffrances deviennent un fardeau léger. Tandis que, chers amis, il nous arrive d'une fois, lorsque nous faisons accomplissant un service, plus une fois au fond de notre cœur, de trouver que le fardeau est lourd. Si nous étions attachés au Seigneur, et qu'il fût le maître que nous désirons servir, et que nous avons seul devant nous, eh bien, nous trouverions même le fardeau des peines et des labeurs, il ne deviendrait très léger. Et enfin, la patience n'est pas une résignation. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas parce qu'on est bien obligé. C'est de l'eau de tout le monde. Il faut bien souffrir, il faut bien endurer. C'est une résignation humaine et charnelle. La patience d'espérance. On est patient, mais dans cette attitude en apparence passive, il y a dans l'âme un état qui n'est pas passif. C'est une espérance vivante qui fait que quelque passif que l'on se paraisse être, on est animé d'une flamme intérieure qui fait que la patience est la patience d'espérance. Dieu partout. Là, on peut remarquer que Éphèse n'avait pas supporté les méchants, les personnes, mais il n'est pas dit qu'il a haï les œuvres des Nicolaïtes. Nous ne pourrions pas haïr une personne. Nous haïssons le mal, où qu'il soit. Et dans l'Assemblée d'abord, bien entendu. L'Assemblée, c'est la sphère où devrait se découvrir dans le monde, et dans le monde chrétien en particulier, le jugement que Dieu porte sur le bien et sur le mal. C'est cela le témoignage. L'Assemblée devrait être le vase du déploiement de la gloire de Dieu dans toutes ses perfections. Et le témoignage des derniers jours n'a pas d'autre raison d'être. Si le témoignage des derniers jours, ce qu'il était, c'était Philadelphie au siècle dernier, n'est-ce pas, s'il cesse d'être le vase du déploiement des perfections divines au milieu de la chrétienté, il a, à l'instant même, sa raison d'être cesse. Et cela se lie à ce que nous trouvons là. C'est toute valeur. Les frères, pour parler, employer un mot que nous comprenons tous, évidemment, sont appelés à évangéliser. Ils sont appelés à servir les inconvertis. Chacun, dans la mesure où il a la foi, pour le faire encore une fois, œuvre de foi. Une assemblée ne peut pas pousser un frère à un service. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Les frères ne peuvent pas pousser un frère pour un service. Ils n'ont pas le droit. Je n'ai pas le droit de pousser un chrétien à un service. Moralement, j'usurpe les droits de Dieu sur cet homme. Profondément, c'est grave. C'est profondément grave. Je puis être appelé à voir, si je discerne, je dis « je » d'une façon générale, n'est-ce pas, si je discerne qu'un chrétien a quelque chose de la part du Seigneur, si je discerne chez lui un appel que le Seigneur, dont le Seigneur l'a marqué, cela peut se faire, cela s'est vu. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Je peux, en étant exercé moi-même dans ce service-là, aider à ce frère et l'encourager, et en un sens lui rappeler que ce que nous trouvons dans les épîtres, n'est-ce pas, qu'il a reçu quelque chose ou lui faire sentir. Mais du jour où je dépasserai ce que un tel service peut me permettre de la part du Seigneur, je risquerai de lui donner moi-même une impulsion qui pourrait le faire broncher dans son travail. il ne recevrait pas l'impulsion directement de la part du Seigneur, le lien entre le maître et le serviteur serait coupé, je le conduirais à faire des œuvres qui ne seraient plus des œuvres de moi. Appliquons cela à bien des choses, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Les cas les plus beaux dans cela, les signes les plus beaux, mais qui sont rares, ce serait un appel adressé par le Seigneur à quelqu'un qui serait dénué de tout, de toutes ressources humaines, et qui n'en chercherait pas, et qui fuirait celles vers lesquelles on pourrait le conduire. Voilà la marque de quelqu'un qui est appelé à faire une œuvre de foi, et nous tous, dans nos services. Nous comptons sur les prières des frères, ah bien sûr, et des assemblées, et nous les réclamons, n'est-ce pas, nous les demandons, et nous rendons grâce de ce que nous pouvons compter sur elles. Mais notre service, notre œuvre, doit être toujours faite par une confiance immédiate et directe vis-à-vis de Dieu lui-même. C'est un point d'une importance immense. Ce serait tout de même une chose affligeante si au terme d'une carrière, d'activité, on est obligé de dire « j'ai beaucoup agi, j'ai beaucoup fait » et on voit des confessions de ce genre. Mais j'ai beaucoup fait sans Dieu. Une carrière en grande partie perdue. J'ai peut-être fait beaucoup aux yeux des hommes, mais j'ai beaucoup fait sans Dieu. Et c'est à Dieu que nous avons affaire, bien entendu, pour l'appréciation de tout. De nos jours, c'est important parce que le propre des clins, n'est-ce pas, c'est de favoriser les manifestations de la chair et non pas celles de l'esprit. Et le discernement pour ces deux états, ce discernement même manque parmi les saints. Quelle pensée que celle-ci, quelle déclaration? Tu as abandonné ton premier amour. Rien ne peut être plus profond et plus saisissant que cela. Rien. Abandonner ton premier amour. Nous rappelons qu'à l'amour, il n'y a qu'une chose qui réponde à l'amour. Une seule chose qui soit à la hauteur d'un amour manifesté. La queue. Une seule chose au monde, et même dans les relations humaines. Même. L'amour ne se monnaie pas, ne se paie pas, comme dit un passage bien connu. Si quelqu'un voulait donner tous ses biens pour de l'amour, on l'aurait en un profond mépris, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus remarquable, même selon le monde, n'est-ce pas? On peut dire, comme quelqu'un l'a dit, qu'il n'y a rien au monde aussi puissant que l'amour, c'est vrai. Vous voyez ce que l'amour fait faire une mère, ou dans d'autres cas. Eh bien, tu as abandonné ton premier amour, jamais la pointe de l'épée, de la parole du Seigneur, ne pouvait atteindre plus cruellement le cœur des rêves. Aucune parole autre que celle-là. Une femme, une épouse, peut se dépenser pour son mari, plus que jamais. Mais si son cœur est refroidi vis-à-vis de son mari, toutes ces manifestations extérieures ne font qu'aggraver la première faute parce qu'elles peuvent revêtir le caractère d'une justification d'ailleurs inacceptable. Tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que, ici, ceux qui sont atteints le plus fortement, ce sont les frères et les sœurs les plus âgés. Les plus âgés. Est-ce que, dans notre cœur, l'amour pour le Seigneur, ce n'est pas une réponse à donner des lèvres, cela. On ne la donne à personne. Le Seigneur n'a chargé personne de dire à Éphèse, de donner à Éphèse cette phrase-là. Il n'a chargé personne. Peut-être tous les frères d'Éphèse et des autres assemblées, pour ne pas parler du monde, trouvaient tout parfait l'état d'Éphèse. Le Seigneur touche à la racine. Eh bien, parmi les frères et les sœurs les plus âgés, car il faut lire ces passages-ci en en faisant une application permanente et directe à chacun du monde. Est-ce que l'amour de Jésus dans notre cœur est-il aussi vivant? Il y a 30, 40, 50 ans, au jour où le Seigneur nous a amené la vie. Et que nous l'aimons autant, nous devrions l'aimer mieux, davantage, et avec une connaissance de lui-même beaucoup plus profonde, d'un amour beaucoup plus caché, d'un amour dont nous ne parlons pas, et dont nous n'avons pas le souci de parler à personne. C'est un secret entre le cœur et Christ. Mais si cet amour, cette flamme est là, c'est cet amour pour Jésus qui nous gardera de faire des œuvres autres que celles qu'il veut que nous fassions, et dans un esprit autre que celui qui veut, dont il veut nous voir être animés. Il le sait, le Seigneur le sait. Si nous aimons après 40 ans de vie chrétienne, si le Seigneur nous est beaucoup plus cher que le premier jour, bien que les manifestations puissent être moins spectaculaires, s'il nous est beaucoup plus profondément cher qu'au premier jour, veuille le Seigneur faire que produire cela, que lorsque son œil lit dans notre cœur, dans ses replis les plus cachés, il puisse découvrir des cœurs qui l'aiment. C'est bien plus difficile. Il est plus difficile de faire beaucoup de travail que de se juger, de laver ton cœur, n'est-ce pas, et de demander à Dieu qu'il l'a, et d'avoir un cœur en or. Rien n'est plus difficile que d'avoir un cœur en bon état. Ne l'oublions pas. En bon état devant Dieu. Et s'il n'est pas en bon état devant Dieu, tout le reste, comment toutes les autres appréciations peuvent-elles avoir un poids quelconque devant Dieu et devant Dieu? Tu as abandonné ton premier amour. Et pourtant, il dit encore de bonnes choses, mais n'oublions pas quand même, si tu ne te repens pas, j'ôterai ta lampe de ton Dieu. La lampe d'Éphèse, il y a bien longtemps qu'elle a été ôtée. Si l'on est conduit à marcher plus lentement dans cette épure, peut-être pour profit des méditations auxquelles nous vivons ainsi. Chacun des passages, chacune des déclarations est susceptible d'un développement très évident. Nous pouvons remarquer, par exemple, que la santé de Joseph était fidèle sur plusieurs points. Aujourd'hui, les rassemblements locaux, dont il est bon que nous nous rappelions, peut-être que nous l'apprenions pour chacun. Il représente localement l'Église entière. Il arrive en général, souvent, que les rassemblements locaux sont fidèles pour exclure ces tours et limiter certains groupes. Ce n'est pas toujours le cas. Mais enfin, nous sommes en général assez prompts à exercer ce que nous appelons la discipline en connaissant, c'est pas tout à fait le bon. Rappelons-nous en passant, l'exercice de la discipline à l'égard d'une personne, c'est l'ensemble des soins à apporter à cette personne pour l'empêcher de s'engager plus avant dans un mauvais chemin, soit moral, soit doctrinal. Et lorsque, si nous étions du fidèle, du Dieu, et nous nous attachés au Seigneur, c'est sûr, ainsi, de pouvoir être pris en vue d'un arrêt de balle, de la restauration de balle, avec ces seuls moyens préventifs, c'est l'idéal. Selon l'Écriture, il arrive que, d'une part, ces soins préventifs sont mal donnés, que l'on se lasse de soigner une âme. Qu'il s'agisse de doctrine, qu'il s'agisse d'un mal moral. Car ces soins sacerdotaux, car c'est cela, demandent deux aussi du dévouement. Ils font partie des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées à l'avance, afin qu'on va réconcer. La sollicitude à l'égard des âmes et des âmes malades en particulier est aussi nécessaire et peut-être l'un des plus à appliquer. l'église de notre pasteur, de Gérard, et toi, et celui qui pourrait grandir vaguement, requiert que tu le grâces et tu le quittes. Sagesse. Il arrive pour cela de soigner les âmes et que l'on règle trop tôt les marques de cas cette personne en appliquant alors ce qu'on appelle la discipline de la fausse, c'est-à-dire l'excuse. Alors que l'ensemble des soins préventifs a pour objet d'empêcher l'excommunication. L'excommunication est la deux supposons que l'on des soins étaient bien pris et que l'on a eu toute la patience, toute la dignité des airs, supposons que ces soins étaient bien pris et que celui dont on s'est occupé de persévère ne devient alors un méchant dans notre être tard, ici et ailleurs, sans préciser de quelle nature, quels sont ces méchants, n'est-ce pas? Il devient alors un méchant et la grande esprit. La constatation des commentaires, prononce l'excommunication du méchant et confesse par ce pacte même que tous les soins préventifs échouent. Un soir arrivé là, par une confession de conscience, il est évident qu'il faut la penser, elle est son droit au préalable, c'est le moins même que l'autre cas. Et ce sont des considérations pratiques dont dépend pratiquement. La paix, la prospérité, le bien-être et la compassion. C'est là que l'on manque et on verra souvent que les frères et les sœurs, assez peu enclins à s'occuper du soin de l'âme, sont assez bons lorsqu'il s'agit de réguler par un jugement judiciaire, comme on dit. Alors, c'est là une chose que vient des frères. Le Seigneur nous fait donc un reproche sur ce point. Ah, c'est ça, il y aurait des méchants qui n'auraient pas supporté du potentiel des faibles, s'ils étaient bien pris, pour s'occuper des méchants. Mais puisque nous avons cela, nous avons ce mot méchant, et nous l'avons également. Et on a pu s'étonner dans les milieux, et encore souvent on s'étonne, dans les milieux du monde chrétien, on s'est souvent étonné, on a exprimé cet étonnement, par parole ou par écrit, un étonnement. Accusateur, n'est-ce pas, à l'égard des frères, on s'est souvent étonné de ce que les frères puissent tant occuper des femmes. Tandis que dans l'autre milieu, on s'en occupe beaucoup moins. Et on affirme cela avec un ton de supériorité d'un institut. Or, la lettre que nous lisons et les autres qui suivent nous montrent que celui qui ne cesse de s'occuper de son fils et qui l'a suivi. Depuis 20 siècles, sans un instant d'élégance, et en disant que son intérêt est légitime, il le suit aujourd'hui avec le même intérêt qu'il la suivait lorsqu'elle lui donnait une satisfaction, nous pouvons dire totale. Ce qui n'a pas duré, mais ce qui a été. Eh bien, nous pouvons voir que le Seigneur s'occupe du mal, car on compte. Et ce sera point d'une importance que nous pouvons sous-estimer, et sur laquelle nous arrivons justement à passer, ce qui est aussi une preuve du déclin qui va nous garder. Car dans un État, bon, une assemblée locale, on a souvent dit, nos frères nous ont appris cela, que dans une assemblée spirituelle, où le Saint-Esprit n'est pas éteint, et où il n'est pas contesté, il est impossible qu'un mal demeure sans être manifesté. Hélas, aujourd'hui, il y a bien des mots qui demeurent sans être manifestés, parce que cela déclare une preuve de l'affaiblissement profond du ton moral et spirituel des rapports. Et si nous lisons ces lettres, c'est-à-dire ce doit être, l'effet des miracles pour le Seigneur, pour nous, c'est que l'atmosphère des réunions des rassemblements. Donc, dans les régions, cette atmosphère soit améliorée, justement, comme suite au travail conscient du cœur que nous demandons au Seigneur de produire en chacun. Encore une fois, le trait caractéristique et la qualité primordiale de ce qui compte le mot du Seigneur et de l'Église, la première, c'est la grâce. C'est la séparation. Et la sainteté comprise dans son sens divin, c'est-à-dire non pas celle qui se forme, non pas la sainteté qui engage seulement à se séparer du mal qui ne peut pas être supporté et que la conscience en a converti. On a la sainteté dans l'état intérieur de chacun des saints, chacun des croyants. Tout ce qui n'est pas compatible avec la nature. Voilà la mission d'une assemblée locale et la mission d'un témoignage du grand Dieu. Ce n'est rien moins que ça. Fermer les yeux sur le mal, c'est suivre les appels de Satan à la tolérance, à la largeur de vue, et c'est s'engager dans une voie où le Seigneur ne peut pas bénir et bénira jamais. Le Seigneur lui-même montre qu'il s'occupe du mal. Il ne peut pas ne pas le voir. Et il ne peut pas l'obliger pour s'en occuper parce qu'il aime trop l'objet au sein duquel ce mal se manifeste. Et si nous avons un cœur de bien, de la santé vitale, et d'une vision de la présence du Seigneur qui se manifeste, nous aurons à cœur de demander au Seigneur qui nous délivre lui-même de ce qui est du mal. Dans la chrétienté, on n'y regarde pas, c'est vrai. On voit les choses en gros, les choses vont comme elles vont, mais nous savons ce qu'elles sont. Et c'est justement dans des considérations de ce genre que nous ne pouvons pas nous engager à rester en ce milieu-là et que nous nous en tenons cet âge. Tu n'as pas pu supporter les méchants. Et il y avait aussi le rôle de faire que les frères, à l'égard des frères, avaient fait sans le mal. Tu vas dérouler ces discours, et c'est justement dans les considérations de ce genre que nous ne pouvons pas nous engager, rester en ce milieu-là, et que nous nous en tenons cela. Tu n'as pas pu supporter les méchants. Et il y avait aussi le rôle de faire que les frères, à l'égard des frères, sans le voir. Vous avez trouvé ces papos, mais ils ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs, et tu les as trouvés menteurs. Les méchants, cela serait très bien être d'autres personnes engagées dans un mal moral, et puis ces faux docteurs qui sont là. Ne nous y trompons pas. Il faut que cela, que nous soyons pénétrés. Ceci, c'est que la vie d'une assemblée locale, la marche d'une assemblée locale ne se fait pas. Ne se construit pas tout seul. Ne pensons pas qu'une assemblée qui prend son état n'a qu'à se délivrer, se laisser vivre sur la table, à la suite de la base du départ de la paix. La vie d'une assemblée locale nécessite la vigilance de chacun frère et sœur, n'est-ce pas, dans l'assemblée. Bien entendu, il ne s'agit pas de s'occuper du mal en juge, et encore là, il faut dire un mot, et c'est fort utile. Dans les jours où nous sommes arrivés, où nous déplorons de toutes les manières que les besoins doctrinaux des pratiques soient souvent ignorés, et simplement ignorés, qui ne sont pas volontairement projetés, mais souvent ignorés. Et de toute manière, l'ignorance ne remplacera jamais la vie, même si elle est bien. Lorsqu'un mal s'est donc présenté dans une assemblée très faible, il s'agit d'un menteur, d'un faux docteur, ou qu'il s'agit d'une fausse moralité, n'est-ce pas? L'assemblée ne doit pas supporter cela. La façon d'agir est dictée par d'autres passages de l'Écriture, mais ce que je désirais souligner tout de suite pour que nous retenions, c'est quand on a un pas. Et quel que flagrant que soit le pas, quel que réel que soit la culpabilité de celui ou de ceux dont on s'occupe et dont on a enfin fini à se séparer. Jamais l'assemblée qui prend cette décision-là ne doit le faire en garantissant dans son cœur et dans son esprit, pour chacun des saints en particulier, l'esprit d'un juge qui est un juge qui n'a en aucune manière. Que Dieu nous donne de faire attention à cela, chers frères. Une assemblée qui exclut justement quelqu'un de son sein, le fait dans les larmes, dans l'éducation, qui n'est non seulement ça, mais le fait d'abord en confessant le péché, en confessant en remettant le sien, le
providences à cette condition Dieu peut venir. Et cela est important aussi à un autre point de vue, lorsque des mots très profonds ont atteint une assemblée ou plusieurs assemblées en même temps, le chemin de la restauration, n'est-ce pas, de ces assemblées, de l'assemblée du témoignage en général, c'est toujours un chemin qui est un chemin de deuil, d'humiliation, de confession. Et si nous étions fidèles pour attendre cela, il est bien évident que la guérison, les guérisons que nous attendons et que nous constatons, resterait beaucoup plus prudente de la part du Seigneur, par tous les moyens, beaucoup plus profonde et beaucoup plus étrangère. L'esprit humain ne convient jamais à un chrétien, en aucun cas, même en état ou en apparence. Il ne peut pas s'en séparer, même en cas où l'assemblée excommunie quelqu'un. Elle n'est pas un juge. Dans les jugements humains, il y a des juges d'un côté, les coupables d'autres, le juge a les mains blanches, le coupable a les mains rouges de sa condamnation, et évidemment, ils sont dans deux camps opposés. Dans l'exclusion d'un coupable d'authentique, l'assemblée plein d'œil, elle mange du sacrifice pour le péché dans un destin, je l'ai encore cité à le passage du titre. Si cela était fait dans les assemblées, si l'exclusion était ainsi prononcée, et si elle était suivie d'exercices soutenus dans le sens, il est sûr que le Seigneur pourrait restaurer le départ et pourrait restaurer de façon bien large les rassemblements d'une assemblée et l'ensemble des assemblées atteintes par des mots comme nous assistons, comme nous le voyons de l'autre. Et alors, encore, j'avais à cœur de dire ceci. En général, on est assez prompt, encore une fois, à excommunier quelqu'un dans des assemblées. Et on pense que l'on a fait son droit. Et on peut faire cela, comme les faits de la fête, n'est-ce pas, avec une grave infidélité intérieure. N'est-ce pas? Nous voyons donc des actes justes accomplis par les prêtres, alors qu'elle était dans un temps qui appelait de la part du Seigneur une réprobation de l'ordre le plus rare, le plus solennel, c'est-à-dire une infidélité des affections. Il arrive souvent dans les assemblées qu'on traite à la légère les cas de discipline qui se présentent et on oublie de voir en même temps que peut-être ce qui a produit ces mots, c'est un refroidissement et l'affection de chacun intercesseur et de l'assemblée tout seule et de vis-à-vis du Seigneur au calme. N'y a-t-il pas là l'occasion de nos jours pour faire l'application de ce principe ouvrage? N'y a-t-il pas l'application, l'occasion de faire l'application de ce principe à la situation générale du témoignage? Même quand nous nous séparons, je vais encore plus loin, n'est-ce pas, nous séparons d'une assemblée. Peut-être à une assemblée, peut-être appelé à se séparer d'une assemblée. Comme je l'ai dit une fois de ces dernières années, étant donné la question est délicate, une assemblée locale ne peut que se exercer sa, le pouvoir qu'elle a de la part du Seigneur dans son sein. Une assemblée bruxelle ne peut pas exclure un frère de l'autre, n'est-ce pas? Ce n'est pas à elle que cela appartient, mais. D'autre part, si une assemblée de l'ombre marche dans le désordre et s'est écartée du terrain de la vérité, on ne peut pas exclure, on ne peut pas excommunier une assemblée, quel que nous devons faire à l'égard de cette assemblée de l'ombre, sans séparer. Mais encore une fois, cette séparation ne doit pas être faite avec un esprit de jugement et de forte justice. Et dans le cas que le Seigneur connaît, il faut qu'il en soit ainsi. La fidélité en ces choses est une chose difficile. Nous avons à éviter le relâchement et d'autre part à éviter la dureté charnelle. Entre les deux, il y a l'amour au Seigneur, l'obéissance au Seigneur, qui nous fera être fidèles tout en étant humiliés et en étant atteints nous-mêmes dans notre cœur et notre conscience. par ce don de pardon, sont des points que nous ne perdons plus dans les assemblées pour l'enseignement de nos vies. Pour rappeler ce que nous disons tout à l'heure ce matin, la seule réponse à l'amour, la seule réponse digne de l'amour donné, c'est l'amour rendu. C'est un amour rendu. Il n'y a rien de satisfaire l'amour que l'amour. Ne nous y trompons pas. Je peux donner, je peux être un frère, j'ai manqué, mon cœur s'est refroidi vis-à-vis du Seigneur. Je peux consacrer au Seigneur tout le reste de mes jours. Je peux consacrer au Seigneur tous mes biens, tout ce que j'ai, toutes mes facultés. Ce n'est pas cela qui répondra à l'amour que le Seigneur a eu pour moi. Et ce n'est pas cela qui me restaurera en soi. La restauration, c'est que le Seigneur relève mon cœur, l'attache à lui-même et le rend prêt à lui montrer qu'il l'aime. Et il n'y a pas deux façons d'aider le Seigneur. Il n'en a pas deux. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas deux. Aimer le Seigneur, c'est le violer. C'est la même chose. Faire ce que le Seigneur aime. Faire ce que le Seigneur veut. Et pour savoir, comme nous demandait tout à l'heure, ce matin, je ne ferai rien ici, pour savoir ce que le Seigneur aime, ce que le Seigneur veut, il faut être exercé par la prière, par la lecture de la parole, à vivre dans sa communion. Celui qui vit dans la communion du Seigneur augmente en intelligence spirituelle pour discerner sa volonté, et c'est aussi le seul état où la volonté du Seigneur étant discernée, c'est l'état de communion avec le Seigneur qui peut seul nous permettre de faire cette volonté à quelque prix que ce soit. Ce n'est pas ce que je veux, moi, honte, si je veux, moi, c'est mon fils d'amour. On a pu dire que la volonté et l'amour ne vont jamais ensemble. Encore une vérité morale à tenir. Je n'ai pas à entreprendre, et nous n'avons pas à entreprendre la restauration du témoignage, ou rien, que Dieu nous en garde. Nous avons à nous attacher au Seigneur et à demander au Seigneur qu'il nous bénisse, qu'il bénisse son témoignage, et c'est ainsi qu'en nous tenant dans la dépendance, nous lui montrons en vérité que nous l'aimons. C'est très facile de dire, n'est-ce pas, comme nous le disons souvent, et c'était une formule qui caractérisait le témoignage, être au pied du Seigneur comme Marie. C'est une très belle attitude, c'est très facile à dire, la grande affaire, c'est de la réalité morale. Que le Seigneur nous y fasse faire des progrès. Encore un mot, ne nous décourageons pas si nous manquons. N'est-ce pas? Nous choisissons tous de bien des manières. Mais le grand point, c'est que nous soyons aujourd'hui dans le chemin où le Seigneur est devant nous. Et non pas dans un chemin que nous ouvrons nous-mêmes devant nos pas.
Mes chers amis, abandon du premier amour, outre ce qui nous a été dit et qui est d'une très grande importance, parce que nous savons par expérience quelle est l'emprise du monde sur les chrétiens. C'est une emprise terrible. Et du monde et des choses qui sont dans le monde. La parole est d'une précision qui prouve que Dieu seul pouvait décrire. Nous savons tous cela par expérience, et combien de fois nous avons dû reconnaître que le monde avait mis sa griffe, le chef de ce monde, sur notre cœur. Le monde a fait un mal à l'Église, et il a fait un mal au témoignage dont nous n'avons pas l'idée. N'allons pas chercher loin, n'est-ce pas? N'allons pas penser à la chrétienté. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas ce qui nous est demandé. L'Assemblée est responsable de ce qui se passe dans son sein. Jamais elle n'a eu pour mission de mettre de l'ordre ailleurs. Mais disons cela, il faut pour les jeunes, nous qui ne le sommes plus, et qui avons donc, et au nom de notre chemin, avons pu éprouver d'une manière ou d'une autre, chez nous, chez d'autres, ce danger considérable que présente le monde pour le chrétien pour une assemblée, pour une famille. Ne minimisons pas l'importance de ce danger. Ce monde, son emprise, son influence pénétra dans les maisons, dans les cœurs, bien sûr, c'est le point final, le terme final. Et donne l'explication d'un nombre incalculable de misères, de vies. Et pour confirmer ce que disait notre frère tout à l'heure, nous rappelons deux passages très forts. Celui qui est ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Et encore un passage plus fort moralement, adultère, vous qui aimez le monde, adultère. C'est cela. Laissons ceux qui en prennent la responsabilité, laissons-les dire que la parole n'est plus vraie au XXe siècle, qui était vraie au premier. Laissons-les à celui qui sonde les reins et les cœurs, et qui est le juge, et qui sera, et qui est le juge de tous. Mais le fidèle qui tremble à la parole de Dieu ne se sentira jamais la moindre liberté, non seulement de tourner ses pages qui contiennent de tels versets, mais d'en affaiblir en aucune mesure la portée. Ils sont là, aussi profonds qu'ils sont simples. Je pense encore, il me semble encore que l'affaiblissement du premier amour, l'abandon du premier amour, peut aussi, nous pouvons tomber dans cet état d'une autre manière, d'autre point. Car si le monde est un très grand piège, et le monde dans ce qu'il a, j'ouvre, je peux bien dire, puisqu'il y a des jeunes ici, qui commencent leur carrière, et qui sont appelés à prendre des contacts avec toutes sortes de choses, je ne dis pas mauvaises en elles-mêmes, nous le savons, nous y avons passé, nous savons très bien ce que cela représente, mais bien, le danger du monde n'est pas seulement dans les choses grossières, ce danger est évident, mais il est dans les choses excellentes, qui paraissent telles, les choses distinguées du monde. Là, il est bien rare, que l'on puisse trouver un frère ou une sœur qui n'ait pas succombé à cette tentation-là, des choses distinguées et belles que le monde présente. Le monde entier gît dans les champs. L'affaiblissement d'une carrière, d'un état d'âme, donc d'une carrière et d'une assemblée, a souvent des sources de ce genre, des causes de ce genre. Et il me vient tout juste à l'instant la pensée suivante d'un de nos frères conducteurs, ces hommes qui regardaient de près pour eux-mêmes, c'est pas, car c'est chacun pour soi, c'est cela qu'il faut voir. J'ai à défricher mon propre terrain, ou plutôt à demander à Dieu qu'il le fasse. J'ai à m'occuper de moi-même avant tout, devant Dieu. Et d'ailleurs, on n'est pas heureux sans cela, bien au contraire. Et il disait ceci, considérez un arbre immense, cet arbre immense. Comment vit-il cet arbre immense et plein de force? Il vit par le moyen d'un très grand nombre de filaments insignifiants qui plongent dans la terre et qui puisent dans la terre ce qui passe dans l'arbre et lui permet, et permet ainsi son accroissement extraordinaire. De même, disait ses frères, qui a appliqué cela pour lui-même tout au long d'une carrière extrêmement longue et belle. De même, le chrétien, l'homme en général, et le chrétien en particulier, s'il ne fait pas attention, il va puiser dans le monde par une infinité de petits filaments, de choses tolérées, de détails dans sa vie de tous les jours, il va puiser dans le monde des éléments qui le rendent mondain et qui font croître dans cet état de mondain. Alors le remède, fait ces filaments. Supprimer ces filaments. Je n'ai pas besoin de faire l'application en détail, parce que d'ailleurs elle varie d'un individu à l'autre. Tel élément mondain est un piège pour un chrétien et pas pour un autre, et inversement. Mais il me semble qu'on peut encore compléter ce tableau par ici. On voit bien des chrétiens, on voit des frères ou des sœurs pas, qui ne sont pas mondains. Pourrait-on affirmer pour autant que cette vigilance pour se garder pur du monde, n'est-ce pas, extérieurement, pourrait-on affirmer pour autant que cette condition réalisée les garantit du maintien du premier amour dans leur cœur? Sûrement pas. Sûrement. Et si nous voulons chercher quelqu'un qui a, dans l'écriture, n'est-ce pas, qui a continué et terminé sa carrière sûrement avec le premier amour, à peu près, probablement tout le long, et un premier amour nourri et fortifié jusqu'à la fin de sa carrière, nous le trouvons chez l'apôtre Paul. Nous avons cela. Nous avons l'écriture. Ce n'est pas pour rien que sa vie nous est donnée. C'est pour cela. Le cœur de Paul brûlait autant à la fin qu'au commencement, et d'une façon plus profonde encore. Eh bien, qu'est-ce que nous trouvons de mieux chez l'apôtre Paul que chez un chrétien qui veille à ne pas avoir de relations mondaines et qui n'est pas pourtant garanti à l'égard du danger que nous trouvons ici? L'apôtre Paul veillait à ce que non seulement le monde ne vienne pas s'installer dans son cœur, mais il veillait aussi à ce que son moi ne s'installe pas dans son cœur. Car le moi peut nous faire perdre le premier amour, nous faire abandonner d'une façon aussi sûre que la mondanité. Cela est plus difficile. Et je peux, pouvons bien dire que je pense qu'en général, ce dernier point apparaît moins à un chrétien quand il est jeune que plus tard. En général, il faut une certaine maturité ou un certain âge pour se rendre compte que les dangers ne sont pas tous extérieurs, et même les dangers extérieurs sont tels parce qu'ils nous atteignent intérieurement. Mais qu'encore une fois, il ne suffit pas d'être gardé à droite, il faut se garder aussi à gauche. Il ne suffit pas d'être gardé au dehors, il faut se garder au-dedans. Et un frère ou une sœur peut être très strict au point d'avoir une vie même extrêmement réduite extérieurement et pourtant n'avoir pas pour autant la flamme vivante du premier amour dans son cœur. Et qu'est-ce que nous trouvons chez l'apôtre, n'est-ce pas? Je place là comme sujet de méditation et d'étude par la parole devant nous tous. Qu'est-ce que nous trouvons chez l'apôtre Paul? Et il était toujours exercé pour que ce ne soit pas lui qui soit en avant, n'est-ce pas, son moi qui soit en avant, mais Christ. Quelle était la vie de l'apôtre? Je ne vis pas moi, mais Christ vit en moi. Et pour moi, vivre, ce n'est pas servir. Comment pas cela? Ce n'est pas scripturaire. Vivre, ce n'est pas prêcher. Vivre, ce n'est pas enseigner. Vivre, ce n'est pas prêcher l'évangile comme il l'a fait. Vous ne trouvez pas cela dans cette belle parole qu'il a. Pour moi, vivre, c'est Christ. Christ était avant son service. Chers frères, chers sœurs, il y a pour nous quelque chose. Parce que si notre service ou notre place dans une assemblée, je vais plus loin, si même nous avons un don, plusieurs dons, et si nous ne veillons pas, si ces dons passent avant le Seigneur dans notre cœur, eh bien, nous avons abandonné notre premier amour. Je peux bien dire pour mon compte que ces réflexions me sont venues bien plus tard que ne pouvait m'était venue celle, plutôt le sentiment des dangers que fait courir le monde extérieur. Elles sont venues bien plus tard, mais je pense qu'elles sont encore plus importantes que les autres. Plus importantes. N'être rien. Voilà. N'être rien à ses propres yeux. L'apôtre le dit en fait. Je ne suis disons combien de fois il paraît. Quel bel état d'âme. Que Dieu nous donne de faire cela. De ne pas nous contenter de ce qui est extérieur. Si Christ, s'il a la première place, le reste suivra. Le reste suivra. Mais que le Seigneur nous donne de ne pas oublier ces choses. Et sûrement, sûrement, parmi nous, parmi les frères, pour chacun de nous, nous avons perdu de vue souvent la nécessité de cet exercice intérieur à l'égard de nous-mêmes. Et même dans les choses que le Seigneur nous a confiées. Si un frère pense un beau jour et nourrit cette pensée surtout, n'est-ce pas, qu'il a un don, plusieurs dons, un service, et qu'il s'est bien dévoué pour les autres, le premier amour a disparu sans cœur. C'est sérieux, ça. Je puis rendre ce témoignage. Je pense bien qu'il serait difficile, je pense que l'on cherche, il en veut bien, et il serait difficile de démentir ce que je vais dire. Nous avons le témoignage de l'apôtre Paul, mais je veux désirant ce témoignage, puisque nous sommes justement dans la lecture de ce qui est l'histoire de l'Église sur la terre, c'est que parmi les frères que nous avons connus et qui nous ont été utiles, qui ont été des canaux pour d'autres, canaux de bénédiction, de communication, de la grâce et de la vérité de Dieu, pour la consolation des saints, pour leur encouragement, pour leur affermissement, pour leur bénédiction. Ceux que nous avons connus, et ceux que nous n'avons connus que par les traces qui sont restées entre nous, les traces qui sont entre nos mains, les traces écrites, et là, nous trouvons là. Et c'est justement pourquoi nous les aimons, et nous aimons leur mémoire. C'est à cause de cela que nous les aimons. Ce n'est pas a priori, ce n'est pas une attitude a priori, mais c'est une attitude à laquelle l'examen devant, à la lumière de l'Écriture, l'examen de cette marche de l'apôtre Paul, ou d'autres, n'est-ce pas, eh bien, nous a conduit à cette étude-là, nous avons trouvé de tels hommes, des femmes aussi, bien que les femmes, on ne les connaît pas, sont à part celles que l'on a vues, hein, on ne les connaît pas parce qu'elles n'ont pas laissé les mêmes traces. Leur rôle a été différent, mais ce qui fait que ces frères et ces sœurs laissent dans notre cœur un souvenir reconnaissant à l'égard du Seigneur, c'est que ce souci que nous avons trouvé chez eux, tout au long d'une carrière qui a eu probablement et sûrement des défaillances, mais en tout cas le souci, c'était une preuve de la grâce en eux, était là permanent pour qu'ils soient toujours et s'effacent toujours derrière le maître, le maître qui se plaisait à servir et à entendre. Que le Seigneur nous accorde ce message. Et c'est cela, ne pas abandonner le premier amour. Je peux très bien avoir une extrêmement stricte et condamner sévèrement tel ou tel élément de mondanité dans la vie de mon frère et être moi-même dans un état encore moins bon parce que je me nourris de ma propre importance, où je trouve satisfaction dans ce que le Seigneur m'a donné de faire, où je pourrais être tenté de me glorifier de ce que la grâce de celle du Seigneur a produit en moi pendant 10, 20, 30 ou 40, 50 ans. C'est une abomination. Comme le Seigneur nous en garde. Et le premier amour, c'est aimer Jésus. Faire céder notre cœur devant lui. Que quand nous sommes placés devant telle ou telle situation, où il s'agit de montrer que nous l'aimons, il n'en manque pas, il n'en manque pas, sans bruit. On ne le dit pas, on n'a pas besoin de le dire. Le dire serait là, abandonner le premier amour, mais dans le secret, montrer au Seigneur que nous l'aimons de la seule manière qui soit possible de le faire, lui laisser la première place en lui demandant de la garder.
Encore.
Témoin, je vais dire un mot sur l'arbre de vie. Qui dit à Éphèse est général d'abord dans le début, celui qui tient les sept étoiles et qui marche au milieu des sept grands arbres. La promesse aussi est tout à fait générale, l'arbre de vie. C'est la bénédiction, le Seigneur place devant la foi ici le terme de la bénédiction, définitive. Le fait que Éphèse avait abandonné son premier amour, étant donné ce qu'elle avait reçu, était la déclaration que même dans une position aussi privilégiée que la position chrétienne, l'homme ne pouvait pas tenir. Il a fait faillite. Éphèse, c'est une faillite. Et c'est une faillite, la faillite de ce qui était le meilleur. Rien, il n'y a rien que Dieu ait donné à l'homme qui atteigne en hauteur et en profondeur ce qu'il a confié dans la période chrétienne. Par conséquent, il n'y a pas de faillite comparable à celle-là, et c'est pourquoi le Saint-Esprit porte nos regards sur la pensée de Dieu qui fait face à cette faillite complète, même dont le degré le plus élevé est la ruine chrétienne, et place devant nos regards, et pour ainsi dire, il a ce qu'il a pour ainsi dire devant les siens, à savoir ce qui est devant Dieu de toute éternité, l'arbre de vie. Entre Jusque-là, il y a eu un grand nombre d'expériences faites du affect à l'homme, n'est-ce pas, depuis le commencement, depuis l'âge mère. Et Dieu, pour ainsi dire, se repose en regardant la pensée qui est devant lui, au-dessus de tous ces désastres qui ont marqué l'histoire de l'homme responsable dans tous les temps, toutes les conditions, toutes les dispensations. La première de ces ruines, c'est celle d'Adam dans le paradis de l'homme, et la dernière, moralement, de ces ruines, la plus profonde, n'est-ce pas, c'est celle du christianisme, et c'est pourquoi la ruine de tout était déjà en germe dans la chute, dans le premier paradis, n'est-ce pas, et c'est pourquoi Dieu place devant nous ce qui est sûr, ce qui est dans son conseil, ce qui est au-dessus de toutes les responsabilités, le paradis de Dieu. C'est un repos profond et une consolation pour nous aussi aujourd'hui de contempler ainsi ce qui est devant nous et qui est assuré, le paradis de Dieu, c'est le paradis de Dieu. Bienheureux ceux qui lavent leur robe, ils mangeront de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de l'homme, il y avait deux arbres. Dans le paradis de Dieu, il n'y a plus qu'un arbre. L'un des deux arbres a disparu entièrement et pour toujours. Les deux arbres étaient celui de la connaissance du bien et du mal, le premier, et l'autre l'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était lié avec à la mise à l'épreuve de l'homme, de la responsabilité de l'homme au cours de toute son histoire. La première mise à l'épreuve a été au jardin des Eden. L'homme désobéit et il est tombé. Et cette chute de l'homme annonçait toutes celles qui devaient suivre, et même la chute des frères qui a abandonné son premier amour. Et alors Dieu, si l'on osait parler ainsi, pour dire, lassé de voir la répétition de la même histoire qui recommence toujours, un privilège conféré et une ruine qui s'ensuit, c'est vrai pour Adam, c'est vrai pour les sacrificateurs, c'est vrai pour la royauté, pour la sacrificature, c'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour tout le monde. Et Dieu, pour ainsi dire, fatigué de cela, en tout cas, pour nous reposer de toute cette lassitude que nous donne ce spectacle de l'histoire répétée de l'homme, de sa chute immanquable dans toutes les situations, il place devant nous ce qui sera enfin définitif. Ce qui sera hors de la portée du mal, quel qu'il soit. Hors de la portée, hors de l'atteinte, de la ruine, quel qu'elle soit. Bienheureux ceux qui mangeront, ceux qui lavent leur robe, ils mangeront de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La question de la responsabilité a été posée dans le paradis de l'homme encore une fois, et il n'était pas possible qu'il n'en fût autrement. Une créature, quelle qu'elle soit, est responsable vis-à-vis de son créateur. Et il est tout à fait, selon Dieu, qu'elle soit éprouvée, sa responsabilité soit éprouvée. Les anges sont responsables, et les anges, il n'y a que deux classes d'anges, les anges déchus et les anges élus. Ceux qui sont tombés pour toujours, Dieu ne s'occupe pas de les restaurer. Ils sont condamnés comme nous le savons. La rédemption n'est pas pour les anges. Il y a deux classes d'anges, les anges déchus et les anges élus. J'emploie deux expressions scripturaires. Mais pour l'homme, c'était autre chose. Les anges ont été soumis à une responsabilité, mais la déchéance était définitive. C'était une apostasie sans appel. Tandis que pour l'homme, Dieu en a jugé autrement. Il l'a soumis à diverses épreuves, à celle du jardin d'Éden, et il a mis l'homme à l'épreuve à une épreuve de simple obéissance. Il s'agissait pour l'homme de ne pas faire quelque chose, n'est-ce pas, de suivre la prescription donnée, de ne pas manger cet arbre, de l'arbre, comme nous le savons bien, et l'homme n'a pas été fidèle. La ruine de toute l'humanité se trouve là en germe. Toute l'histoire a suivi, bien que l'homme, Dieu ait mis l'homme à l'épreuve ensuite, dans des conditions diverses, comme je viens de les rappeler très brièvement. Alors, devant cette impossibilité de l'homme, dans toutes les situations, dans l'innocence d'abord, qui était la situation la moins dangereuse en apparence, et puis ensuite, pour l'homme tombé, les diverses positions où il a été mis, n'est-ce pas, la sacrificature, la royauté, et nous voyons toute son histoire, et puis l'Église aussi, n'est-ce pas, eh bien, l'homme démontre qu'il est entièrement ruiné, et au lieu de l'abandonner au triste sort qu'il méritait, Dieu parle ici comme pour nous consoler, nous rassurer, nous encourager. Il parle de ce qu'il avait devant lui avant la fondation du monde, et il parle du paradis de Dieu dans lequel il n'y a plus qu'un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a disparu. La responsabilité de l'homme ne sera plus un problème posé, ce sera un problème résolu. Le Seigneur a pris sur lui les conséquences de notre manquement à cette responsabilité, et par son œuvre expiatoire, il nous ouvre l'accès au paradis de Dieu. Et voilà pourquoi, rendant cette ruine initiale d'Éphèse, qui annonce déjà la ruine de l'Église, il nous est parlé de cela, que celui qui vaincra, c'est-à-dire le vrai chrétien, il mangera de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est l'état définitif. Après toutes les épreuves, toutes les mises à l'épreuve, c'est l'état définitif. C'est le repos de Dieu, c'est le bonheur de Dieu, c'est ce que la grâce de Dieu établit dans toute l'histoire de la responsabilité de l'homme est enfin terminée. Quelle merveille cela! Quelle profondeur! Quelle hauteur! À quelle hauteur Dieu nous élève dans un simple terme! À quelle profondeur de pensée et de conscience!